France Musique. Les grands entretiens, Philippe Cassard.
Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Philippe Varjabédian, je suis né le 21 octobre 1965, je suis violoniste et je fais partie du trio Wanderer.
Semaine, nous recevons le trio Wanderer pour les grands entretiens. Nous avons d'abord interrogé chacun de ses membres et aujourd'hui, c'est le troisième membre du trio, Jean-Marc Philippe Varjabédian, le violoniste.
Jean-Marc Philippe Varjabédian, est-ce que naître et grandir dans une famille de musiciens, c'est épanouissant ou, au contraire, cela conduit à l'introversion ?
Non, c'était assez épanouissant avec mes parents qui étaient tous les deux pianistes et qui ont eu l'intelligence de nous mettre, mon frère et moi, des instruments à cordes.
Votre frère, c'est Xavier Philippe, voilà, le violoncelliste.
Exactement, qui est né 6 ans après moi. Parce que déjà, 2 pianistes dans un appartement parisien, c'était assez problématique. Et donc, en rajouter un troisième et un quatrième, ça aurait été... à ce niveau-là, eux-mêmes découvraient en fait un peu les problématiques des instruments à cordes. Donc, il y avait une espèce de découverte ensemble, on va dire. Et j'ai le souvenir, quand j'étais gamin, de repas du soir, où on mettait des disques et où mon père et ma mère analysaient en direct ce qu'on entendait. J'avais le droit de poser toutes les questions que je voulais. Et c'est comme ça qu'ils m'ont fait ma culture musicale, on va dire. J'ai le souvenir de mon père me disant « Si un jour t'es un petit peu moins bête, je te ferai écouter la plus belle musique du monde. » Alors j'attendais d'être un peu moins bête, c'était une façon de me motiver. Et je crois que vers l'âge de mes 8 ou 9 ans, il m'a fait entendre le quintet de violoncelle de Schubert en m'expliquant que c'était la plus belle musique du monde.
Et vous l'avez ressenti telle ou pas?
Oui, complètement. Ouais. C'est devenu ma musique que j'emmènerai sur une île, oui. C'était assez intéressant aussi de les entendre discuter entre eux de techniques de piano puisqu'ils étaient très liés avec Dominique Merlet, qui était leur dieu. Et ils avaient pris dans leur jeunesse des cours avec Dominique Merlet, l'un et l'autre. Et donc, ils avaient des grandes discussions passionnées à table sur la technique de Neuhaus, le toucher de Dominique Merlet.
Qui allait devenir le professeur de Vincent Koch.
Voilà, oui, mais c'est pour
quelle
ça
coïncidence.
C'est assez rigolo, oui.
Violon, alors, c'est imposé à vous, dès que vous l'avez pris dans vos mains ou pas?
Alors, pas du tout. Le violon m'a été imposé parce que mon père était très copain avec un violoniste du quartier qui était un juif polonais et qui avait l'accent de Popek, qui était un personnage inénarrable, et qui lui a dit « Bah, ton fils, t'as qu'à le mettre au violon ». Et donc, c'est comme ça que j'ai connu M. Spager, dont je garde un excellent souvenir, et qui m'a appris le violon, voilà. Et après, j'ai eu d'autres professeurs, Jacques Dejean, qui était
excellent. À l'opéra.
Oui, voilà, qui était un excellent violoniste, qui a fait partie du quatuor de l'ORTF. Et Janine Volant-Panel, qui était une amie d'enfance de Jacques Dejean, et qui m'ont présenté en fait tous les deux au conservatoire, où je suis rentré après chez Jean Fournier.
Vous étiez déjà très fort en quelques années.
Bah, j'ai commencé le violon vers l'âge de 5 ans, et puis ma mère faisait travailler tous les jours, ça s'est pas fait tout seul, non. J'étais pas un génie du violon, il a fallu travailler. Mais surtout j'avais une mère qui était bien présente à ce niveau-là, et qui me lâchait pas. Sinon je serais pas devenu violoniste, très franchement, sans ma mère, ça serait pas fait. J'étais beaucoup plus intéressé par le sport, moi, en fait. Et puis donc après, Fournier est parti à la retraite, et c'est Gérard Poulet qui l'a remplacé. Et puis là, bah, avec Gérard Poulet, on s'est plus quitté, quoi. Jusqu'à l'âge de 25 ans, c'était mon... Alors, il voulait pas qu'on l'appelle maître, mais c'était mon maître. Voilà. Il m'a entièrement formé. J'ai eu des contacts aussi avec Salvatore Accardo et puis Dorothy Delay à New York. Mais voilà, la formation vraiment violonistique et musicale, c'est Gérard Poulet. Ouais.
C'était quelqu'un d'autoritaire ?
Pas autoritaire, mais pas facile.
Ou qui avait de l'autorité ?
Oui, ça, il avait une autorité naturelle parce que quand il voulait les choses, il faisait tout pour les obtenir.
Qu'est-ce qu'on travaillait chez Gérard Poulet ?
Ce qu'il faut savoir de Gérard Poulet, c'est que ça a été un enfant prodige, mais au grand sens du terme, parce que j'ai entendu des disques de lui à l'âge de 11 ans, ou 12 ans, c'est juste vertigineux, c'est pratiquement l'équivalent de Menuhin. Un concerto de Mozart, qu'il a enregistré à 11 ans, et lui-même voulait pas l'entendre en fait. Il disait « Ah oui, ouais, j'étais pas mûr à l'époque, tout ça », mais en fait, moi ce que j'entendais, c'était absolument prodigieux. Et puis vers l'âge de 18 ans, il a eu une crise, juste après avoir gagné le premier prix Paganini, il a eu une crise et là il s'est aperçu qu'en fait il jouait trop instinctivement, il avait besoin de comprendre comment ça marchait. Et puis il a rencontré Schirring. Et c'est là en fait qu'il a complètement refait sa technique. Et donc Gérard Poulet c'est quelqu'un qui a une science du violon immense, comme Schirring d'ailleurs. Et qui peut tout analyser, tout décortiquer. Et donc, quand on rentre dans la classe de Gérard Poulet, on apprend à jouer du violon. Alors, il va pas décourager les jeux instinctifs, bien au contraire. Mais c'est une école, c'est-à-dire que c'est une façon de se tenir, c'est un jeu basé sur l'anticrispation. Puis lui le prouvait, parce que à la classe, il prenait nos violons, il venait sans son violon. Et à chaque fois qu'il montrait un exemple, il prenait le violon élève et il jouait. Tout d'un coup, on entendait son propre violon, on reconnaissait le son de Gérard Poulet et c'était assez sidérant. Donc il imposait forcément le respect comme ça, je veux dire. Mais il avait un caractère pas toujours évident. Donc je me souviens surtout d'une exigence sur la justesse, la qualité du son. Voilà, je me souviens de cours parfois pénibles où il me lâchait pas. On restait sur une page jusqu'à ce que je la joue souple, sans me crisper, avec la position qu'il me demandait, tout ça. Enfin, on devenait fou des fois, hein, mais ça donnait des résultats.
Et vous étiez bosseur ?
Non.
vous préfériez le sport ?
Oui,
bien sûr. C'était un footeux, vous ?
Non, pas du tout, c'est mon
pas
frère.
Pas du tout.
C'est mon frère. Ah oui, non, moi, j'étais plutôt dans les sports individuels. J'aimais beaucoup la gymnastique, la natation, mais surtout la gymnastique. Puis après, j'ai eu une passion pour l'escalade vers l'âge de 16 ans. Donc j'ai commencé à grimper à Fontainebleau. Tout ça était absolument antinomique avec le violon. Donc,
les mains.
Bah oui, voilà. En fait,
Gérard Poulet. Et il râlait pas, Gérard Poulet?
Si. Gérard Poulet et ma mère formaient une espèce de tandem infernal où, en fait, ils se mettaient à deux pour m'encercler et m'obliger à travailler mon violon. Voilà. Franchement, j'étais un adolescent qui rêvait qu'une chose, c'est d'aventure. Quand je parle d'aventure pas forcément féminine, mais d'aventure, voilà.
Oui, de voyage, de lointain.
Voilà, j'étais passionné par Jules Verne. J'avais vraiment envie de jouer les explorateurs ou je sais pas. Et puis tout était prétexte à me défouler physiquement. Et ce qui était pénible pour moi dans le travail de l'instrument, c'est ça, c'est que rester toute la journée sur son petit bout de bois avec ses quatre cordes, il y avait des moments où j'avais envie d'exploser, quoi.
Donc, et ça, mes parents. Vous étiez un nerveux, un inquiet?
Je suis devenu, mais non, à l'époque, j'étais pas tellement nerveux, non. Mais j'avais besoin de me défouler, physiquement.
Physiquement.
Et donc, ça, mes parents l'avaient bien compris. Et de temps en temps, ils m'envoyaient. Allez, c'était une époque où on pouvait encore jouer dans la rue. Ils m'envoyaient prendre mes patins à roulettes et puis allez, évade-toi une heure et puis après tu...
Mais pourtant, Jean-Marc Philips, vous êtes présenté à de nombreux concours internationaux et vous en avez gagné. Donc ça veut dire qu'il fallait quand même une discipline de travail et une volonté.
En fait, c'est le seul truc que j'avais trouvé qui correspondait à mon côté sportif. Puis je me suis dit, puisque...
L'esprit de compétition.
Oui, enfin je l'avais pas... Si, je m'étais trouvé ça pour m'obliger à travailler. En fait, mon rêve à l'époque, ça aurait été si... j'étais chez Gérard Poulet, mais après, si Oistrakh avait été vivant, mon rêve, ça aurait été de partir en URSS, d'être enfermé très malheureux dans une chambre d'étudiants pour m'obliger à travailler mon violon. Parce qu'en fait, sinon, je n'avais pas envie de le travailler.
Et alors, comment les choses se sont peu à peu cristallisées pour que vous y trouviez votre équilibre, votre goût de la vie?
Elles se sont cristallisées assez tard, je dirais, vers l'âge de 16-17 ans au conservatoire. En gros, une fois que j'ai quand même passé mon bac et que j'étais un peu plus libre pour travailler mon instrument. Et puis avec quelques récompenses quand même, soit dans les concours internationaux, soit quand j'ai joué le concerto de Brahms pour la première fois avec l'orchestre Padeloup à la salle Gaveau. Bon,
c'est gratifiant quand même.
Oui, voilà, j'ai vu que c'était gratifiant.
Et que ça marchait, que vous dégagiez certainement.
Apparemment ça marchait, mais en même temps j'avais une conscience assez aiguë de ce qu'on peut faire sur un violon et que je n'arrivais pas à faire. J'ai été rattrapé, les choses sont cristallisées. En gros, quand j'ai commencé à prendre du goût et de l'intérêt dans la musique et à comprendre que grâce à la musique, je pouvais déverser aussi mes émotions, me défouler finalement. Et à ce moment-là, le côté sportif de l'instrument s'est mis au service de la musique, de comment la servir. Et progressivement, les choses se sont amplifiées à ce niveau-là.
Au conservatoire, il y avait une classe obligatoire de musique de chambre. Ça a mis le doigt sur certaines envies, peut-être un peu enfouies chez vous, de partager, d'écouter les autres.
Oui, alors la musique de chambre, en fait, j'en ai fait déjà assez jeune, puisque je jouais très souvent avec mes parents. Quand mon frère a été en âge de jouer un petit peu de violoncelle vers l'âge de 6-7 ans, il avait commencé vers l'âge de 6 ans aussi, mon père, qui était compositeur essentiellement pour des trucs pédagogiques, mais qui s'amusait à composer, avait composé à trio pour un pianiste et un violoniste confirmé et un violoncelliste débutant. La musique de chambre, on la pratiquait assez souvent en fait à la maison. Et la classe de Jean Hubeau, oui, j'en garde un très bon souvenir. Il y avait Olivier Charlier, qui depuis est devenu un très très bon ami, qui était assistant. Donc j'étais pas perdu, puisqu'il y avait Olivier qui me coachait un peu sur le violon.
Qui était tout jeune à l'époque.
Il était tout jeune, oui. C'était un peu comme mon grand frère.
Oui, quoi. Voilà.
Il avait ce rapport-là très très sympathique. Et Jean Hubeau, qui était assez magique.
Un poète.
Oui, voilà. Un peu distant, un petit peu froid comme ça, un peu un personnage de Sempé, qui lâchait tout à coup une phrase qui avait une résonance incroyable.
France Musique, les grands entretiens du trio Wanderer.
Jean-Marc Philips, parmi vos différentes expériences de chambriste en dehors du trio Wanderer, quelle est celle qui vous a le plus marqué?
J'étais dans un quatuor, j'avais joué deux trios dans ma vie, un trio de Ravel et un trio de Schumann, c'est tout. Et j'avais développé quand même un certain répertoire de quatuor à cordes, et j'adorais le quatuor à cordes. Contre l'avis de mes professeurs qui me disaient « mais t'es fait pour jouer des concertos, des choses difficiles, qu'est-ce que tu allais faire du quatuor à cordes ? De toute façon, on peut pas faire les deux. » Je disais « mais c'est pas vrai, Isaïe avait un quatuor à cordes, Wisniewski avait un quatuor à cordes, Vieuxtan jouait dans un quatuor à cordes, Jacques Thibault était le second violon du quatuor Isaïe, qu'est-ce que vous me racontez là ?» Bon, mais c'est une autre époque. Donc moi, je voulais pas en démordre, je voulais... voilà. Et puis, il s'est trouvé que bon, au moment du quatuor à cordes, chacun avait un peu ses choses à faire, ça s'est filoché un petit peu, et je me destinais plutôt à une carrière de violon solo d'orchestre. Donc j'ai commencé à passer les concours ici à la radio, à droite à gauche, et puis la rencontre s'est faite comme ça, puisque donc Guillaume avait signifié qu'il voulait quitter le trio, ils étaient un petit peu dans la mouise pendant un certain temps, Et puis, c'est Guillaume qui m'a appelé, en fait, et qui m'a expliqué que, voilà, il quittait le trio et qu'il pensait que ça serait bien pour moi, parce qu'il suivait un peu ce que je faisais. Bon. Et j'ai réfléchi un peu, et puis les choses se sont faites comme ça, quoi. Et donc, ce qui est drôle, c'est que, voilà, Guillaume est devenu violoniste de Quatuor à cordes, et que moi, violoniste de Quatuor à cordes, je suis passé au trio.
Alors comment ça s'est passé, cette fameuse première rencontre
Alors, en fait, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Moi, je connaissais bien Raphaël aussi, parce que, et Vincent, puisqu'on assistait à toutes les auditions de la classe de Nagui Merlet.
Évidemment.
Mes parents étaient fans de Vincent. Ils trouvaient que c'était un pianiste tout à fait dans la lignée de Merlet, avec cette souplesse, ce jeu extrêmement legato. Ils lui trouvaient énormément de qualité. Et puis, on assistait aussi, bien sûr, à toutes les éditions de la classe de Müller, puisque mon frère en faisait partie. Et donc, Raphaël Pidoux, je le connaissais aussi.
Évidemment.
Et qui était personnage assez ouvert, sympathique, un peu rassembleur, charmeur. Enfin bon, voilà. Et puis bon, après, quand le trio Wanderer a commencé, on les regardait passer dans le couloir, impressionnés. Et puis on savait qu'ils avaient gagné prix à Munich et tout. Ah, c'est le trio Wanderer, oui, passé un petit peu fier. Bon. légèrement prétentieux, même parfois. Mais bon.
Ah, mais on est jeune.
Voilà, c'était drôle. Donc quand Guillaume m'a proposé ça, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, ouais. Après tout, et donc j'ai appelé Raphaël.
Vous aviez beaucoup de concerts prévus dans votre agenda, par exemple ?
Non, moi j'avais une carrière de soliste un petit peu franco-française, pour être franc. J'arrivais pas tellement à percer sur l'international. On m'invitait à l'orchestre de Cannes, à l'orchestre de Nancy, à l'orchestre de Poitou-Charentes, l'orchestre d'Avignon. Et puis, j'avais aussi des partenaires pianistes avec qui j'aimais bien jouer. Donc avec Alexandre Tarot, on avait pas mal... explorer la musique française, pas trop connue. J'avais joué un peu avec Nicolas Angelich aussi, puisqu'on était assez copains à l'époque.
Et Marie-Joseph Jude.
Et surtout Marie-Joseph Jude.
Qui voilà. Est devenue vraiment une partenaire de musique de chambre.
Oui, oui. Voilà, avec
privilégiée.
Marie-Joseph Jude, on a vraiment essayé de former un duo. Donc j'avais ce petit calendrier de concerts qui me suffisait, qui me suffisait pas vraiment, non. Et j'avais déjà une place de prof d'enseignant. J'ai commencé à enseigner le violon à l'âge de 18 ans, en fait. Donc mon destin, il était un peu tracé comme ça, professeur de violon, des concerts à droite à gauche, mais carrière plus franco-française et qui le serait peut-être resté, et éventuellement une place de violon solo dans un grand orchestre.
Donc et... grand changement avec l'arrivée dans le trio Wanderer.
Là, tout d'un coup, le coup de fil de Guillaume, ça a été une réflexion, et puis donc j'ai appelé Raphaël sous les conseils de Guillaume et qui m'a dit oui, mais nous on se connaît. On va pas faire ce qu'on a fait avec d'autres violonistes, qu'on a fait comme une forme d'audition, machin. Bon, le mieux, ça serait qu'on essaie de trouver un concert. Alors, on a une espèce de liberté, c'est à Espalion, un copain journaliste qui s'appelle Philippe Meyer. Si tu veux, on se programme un concert et on travaille en amont. Et puis, alors, à l'issue du concert, on prendra la décision. Alors, j'ai trouvé que c'était une très bonne solution. Parce qu'aller faire une répétition, avoir l'impression de passer une audition, c'est épouvantable humainement. Donc... là, s'il avait trouvé une solution qui était beaucoup plus sympathique. Bon.
Et puis qui est la vérité.
Oui, en plus, parce qu'en fait, c'est sur scène que les choses se passent. Bon. Et on a commencé donc à répéter. Et je me souviens pas exactement de tout le répertoire, mais je me souviens du deuxième trio de Mendelssohn, qui me semblait touffu. J'avais plein d'informations qui m'arrivaient et je savais pas où me mettre. J'étais un peu ennuyé pour eux. Et j'ai vraiment l'impression que je faisais pas l'affaire, quoi. On a commencé à travailler, à répéter, bon. Alors, ils étaient très gentils avec moi, me disant, mais là, il faut attention, là, puis il faut être bon, voilà. Puis eux, entre eux, ils étaient pas très gentils.
Ah oui,
Alors, je me suis dit, oulala, ça chauffe là-dedans, quelle ambiance, bon.
Qu'est-ce que vous appelez pas très gentil?
Bah, il se balançait des réflexions sur à l'emporte-pièce, c'est sans vraiment
du genre.
Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux pas que t'es pas en place, machin. Là, tu joues trop fort. Bon. Et Jean-Marc, est-ce que tu pourrais éventuellement jouer un tout petit peu moins fort? Et ça t'ennuierait pas éventuellement d'être ensemble sur la double croche là? Bon, voilà. Ça a pas duré très longtemps, ça. J'ai vite pris le diapason, mais ça me surprenait un peu, quoi.
Arrivé au trio Wanderer, vous leur avez dit, enfin je crois, que vous vouliez garder un peu votre jardin privé, votre jardin secret. Et à l'époque, vous jouiez par exemple avec Galliano,
oui.
Richard Galliano. Alors, vous exploriez le répertoire de Piazzolla.
J'ai toujours été curieux de tout et j'ai toujours surtout été complètement réfractaire à l'enfermement. Donc je trouvais déjà que le violon était une forme d'enfermement, donc avec mon pote d'enfance, Paul Rouget, bah, dès qu'on avait fini nos journées au conservatoire, on allait chez lui et puis on se mettait du Jean-Luc Ponty ou du Didier Lockwood. Et on avait l'impression d'être un peu des rebelles en faisant ça. Bon, et c'était pas méchant, hein. Et la rencontre avec Richard s'est faite aussi parce que, comme j'étais curieux, bon, voilà, j'avais rencontré un jazzman qui s'appelle Daniel Goyon qui m'avait offert de jouer sur son disque et j'ai rencontré Richard. Et on s'est apprécié beaucoup tous les deux. J'avais 22, 23 ans à l'époque.
Vous avez joué des années avec lui?
J'ai joué 15 ans avec lui, oui.
Quand vous n'enseignez pas, quand vous ne jouez pas, qu'est-ce que vous aimez faire, Jean-Marc Philips? Du sport?
Oui, bah ça, si à chaque fois que j'ai l'occasion, j'essaie d'en faire. Là, j'ai fait pendant 5 ans du taekwondo, ce qui est un peu aussi antinomique avec le violon. Mon frère fait de la boxe anglaise maintenant, on avait commencé le taekwondo ensemble. À une époque, j'ai fait de l'escrime. Là, on vient de s'installer en fait en Bretagne, à Brest, et donc je me suis passionné pour... le paddle, c'est une espèce de planche sur laquelle on rame, mais qui est très difficile au niveau de l'équilibre, c'est assez technique en fait. Ça a l'air de rien comme ça, on dirait une fausse image d'un gondolier de Venise, mais sur la mer en fait. Donc oui, du sport et de la cuisine, et lire aussi.
Et un dernier mot sur la fratrie avec Xavier, vous entendez bien avec
lui? On s'entend extrêmement bien, on est proche dans nos réactions, dans nos façons de...
En caractère.
Dans les caractères. Enfin, il a un caractère différent du mien. Xavier est plus battant, plus fort sur certains, plus dur aussi, même parfois dans ses rapports. Mais oui, on a beaucoup de choses en commun. Donc, et quand on joue ensemble, c'est une évidence.
Thank you. c'était le duo opus 7 pour violoncelle et violon de Zoltán Kodály, interprété par Xavier et Jean-Marc Philips. Ainsi s'achève ce troisième épisode des grands entretiens avec le trio Wanderer, mais demain, on les retrouvera tous les trois autour de la table. À la prise de son, Pierre Monteil, au mixage Cédric Chatelus, l'attaché d'émission c'est Marie-Christine Ferdinand, et à la réalisation, Lionel Quentin. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.